Chapitre 2. Le tribunal des ombres. Chaque nuit, messire de Nogaret, chevalier, légiste et garde des sceaux, travaillait fort tard en son cabinet, comme il l'avait fait toute sa vie. Et chaque matin, la comtesse d'Artois apprenait que son ennemi avait été vu en parfaite santé, semblait-il, et se rendant d'un bon pied, ses portefeuilles sous le bras, à l'hôtel du roi. La comtesse posait alors un regard lourd sur sa demoiselle de Parage. « Patientez, madame. Une grosse, cela fait 12 douzaines, à raison de 2 douzaines la semaine. » Mais la patience n'était pas le fort de Mao, qui commençait à prendre très petite opinion des vertus mortifères du serpent de Pharaon. À savoir seulement si la chandelle empoisonnée était bien allée chez son destinataire, s'il n'y avait pas eu échange ou erreur, ou si quelques valets n'avaient pas laissé choir précisément cette chandelle-là. Pour être certain de réussir, il eût fallu pouvoir la planter soi-même dans le candélabre. « La langue ne peut pas se tromper, madame », assurait Béatrice. Mao croyait peu à la sorcellerie. « Coûteuse manigance pour piètre résultat. D'abord, un bon poison, décrétait-elle, s'administre par la bouche et non par fumée. » Néanmoins, lorsque Béatrice lui portait son bougeoir le soir, elle ne manquait pas de lui demander avec un peu d'inquiétude. « Ce ne sont point des chandelles à légiste. »« Mais non, madame, » répondait Béatrice. Or, un matin de la fin mai, Nogaret, contrairement à ses habitudes, arriva en retard au conseil. Il pénétra dans la salle alors que déjà le roi était assis. Nogaret s'inclina très bas en offrant ses excuses. Ce faisant, un vertige le saisit et il dut se rattraper à la table. La plus urgente affaire était l'élection papale. Le siège pontifical était vacant maintenant depuis 4 semaines, et les cardinaux, réunis en conclave à Carpentras, selon les instructions dernières de Clément V, se livraient un combat qui ne paraissait pas près de finir. On connaissait fort bien la position et la pensée du roi de France. Philippe le Bel voulait que la papauté restât en Avignon, là où il l'avait installée, à portée de sa main. Il voulait que le pape, si possible, fût français. Il voulait que l'énorme organisation politique que constituait l'Église ne pût jouer, comme elle l'avait fait souvent, contre le royaume. Les 23 cardinaux assemblés à Carpentras, et qui venaient de partout, d'Italie, de France, d'Espagne, de Sicile, d'Allemagne, étaient déchirés en presque autant de camps qu'il y avait de chapeaux. Les disputes théologiques, les rivalités d'intérêts, les rancunes de famille alimentaient leur lutte. Chez les cardinaux italiens, surtout, entre les Caetani, les Colonna et les Orsini, existaient des haines inexpiables. « Ces 8 cardinaux italiens, dit Marini, ne sont accordés que dans leur volonté de ramener à Rome la papauté. Par bonheur, ils ne le sont sur le nom d'aucun papable. Cet accord peut se faire avec le temps, remarqua Monseigneur de Valois. C'est pourquoi il ne faut point leur en donner, répondit Marini. Nogaret sentit à ce moment comme une nausée qui lui alourdissait l'estomac et gênait sa respiration. Il voulut se redresser sur son siège et il éprouva de la difficulté pour commander à ses muscles. Puis son malaise disparut. Il respira largement et s'essuya le front. « Rome est la ville du pape pour tous les chrétiens, dit Charles de Valois. Le centre du monde est à Rome. Chose qui convient aux Italiens sans doute, mais non au roi de France, dit Marini. « Vous ne pouvez tout de même refaire l'œuvre des siècles, messire Enguerrand, et empêcher que le trône de Saint-Pierre ne soit là où il l'a fondé. Mais quand le pape veut se tenir à Rome, il ne peut y rester !» s'écria Marini. « Il est forcé de fuir devant les factions qui déchirent la ville, et doit s'aller réfugier dans quelques châteaux sous la protection de troupes qui ne lui appartiennent point. Il se trouve beaucoup mieux veillé par notre bonne forteresse de Villeneuve, de l'autre côté du Rhône. » « Le pape demeurera en son établissement d'Avignon, » dit le roi. « Je connais bien Francesco Caetani, » reprit Charles de Valois. « C'est un homme de grand savoir et de grand mérite sur qui je puis avoir de l'influence. »« Je ne souhaite point ce Caetani, » dit le roi. « Il est de la famille de Boniface et reprendrait les errements de la bulle Unam Sanctam. » Philippe de Poitiers, penchant son long buste, montra qu'il approuvait pleinement son père. « Je pense qu'il y a dans cette affaire, dit-il, assez d'intrigues pour qu'elles s'anéantissent l'une l'autre. À nous d'être les plus tenaces et les plus fermes. » Après un instant de silence, Philippe le Bel se tourna vers Nogaret. Celui-ci, le visage très pâle, respirait avec peine. « Votre conseil, Nogaret ?»«
Oui, sire, » dit le garde des Sceaux avec effort.
Il passa une main tremblante sur son front.
« Veuillez me pardonner cette lourde chaleur, mais il ne fait pas chaud, » dit Hugues de Bouville.
Nogaret, à grand effort, prononça d'une voix lointaine.
« L'intérêt du royaume et celui de la foi commandent d'agir en ce sens. »
Puis il se tut. On s'étonna qu'il eût parlé si peu, et pour exprimer une pensée si vague. « Votre conseil, Marigny ?»«
Je proposerais, sire, qu'on prît prétexte de ramener en Guyenne les restes du pape Clément, selon la volonté qu'il en a montrée, pour aller presser un peu le conclave. » Mais sire de Nogaret pourrait être chargé de cette pieuse mission, nanti des pouvoirs nécessaires, et accompagné d'une bonne escorte, armée comme il convient. L'escorte garantira les pouvoirs.
Charles de Valois détourna la tête. Il désapprouvait cette épreuve de force.
« Mon annulation en sera-t-elle hâtée ?»
demanda Louis de Navarre.
« Taisez-vous, Louis, » dit le roi. « C'est aussi à cela que nous travaillons. »« Oui, sire. »
dit Nogaret, sans même avoir conscience de parler. Sa voix était rauque et basse. Il éprouvait un grand trouble dans l'esprit, et les choses se déformèrent devant ses yeux. Les voûtes de la salle lui parurent devenir hautes comme celles de la Sainte-Chapelle. Puis, soudain, elles se rapprochèrent jusqu'à devenir aussi basses que celles des caveaux où il avait coutume d'interroger les prisonniers.
« Qu'advient-il ? »
demanda-t-il en essayant de desserrer son surcot. Il s'était brusquement ramassé sur lui-même, les genoux contre le ventre, la tête baissée, les mains crispées sur la poitrine. Le roi se leva, imité de tous les assistants. Nogaret poussa un cri étouffé et s'écroula en vomissant. Ce fut Hugues de Bouville, le grand chambellan, qui le ramena à son hôtel où il fut aussitôt visité par les médecins du roi. Ceux-ci consultèrent longuement. Rien ne fut révélé de leur rapport au souverain. Mais bientôt, à la cour et dans toute la ville, on parla d'une maladie inconnue. Le poison, on affirmait avoir essayé des plus puissants antidotes. Les affaires du royaume, ce jour-là, restèrent comme suspendues. Lorsque la comtesse Mao apprit la nouvelle, elle dit seulement « Bon, il paie !» Et elle se mit à table. Mais elle promit à Béatrice une robe complète, c'est-à-dire les 6 pièces, chemise, robe de dessous, robe de dessus, surcot, manteau, échappe, le tout de la plus fine étoffe, avec en plus une belle bourse pendue à la ceinture, si le garde des Sceaux trépassait. Nogaret, effectivement, payait. Depuis plusieurs heures, il ne reconnaissait plus personne. Il était sur son lit, le corps secoué de spasmes, et il crachait du sang. Il n'avait même plus la force de se pencher au-dessus d'un bassin. Le sang coulait de sa bouche sur un gros drap plié qu'un valet changeait de temps en temps. La chambre était pleine. Amis et serviteurs se relayaient auprès du malade. Dans un coin, petit groupe sournois et chuchotant, quelques parents pensaient à la curée en évaluant le mobilier. Nogaret ne les distinguait que comme de vagues spectres qui s'agitaient très loin, sans raison et sans but. D'autres présences, visible de lui seul, était en train de l'assaillir. Au curé de la paroisse qui vint l'administrer, il ne confessa que des râles ou des paroles inintelligibles.
« Arrière ! Arrière ! »
hurla-t-il d'une voix épouvantée quand on loignit des saintes huiles. Les médecins se précipitèrent. Nogaret, hagard, se tordait sur sa couche, les yeux révulsés, repoussant des ombres. Il était entré dans les affres. Sa mémoire, qui n'aurait plus à lui faire de service, se vidait d'un coup comme une bouteille retournée qu'on va jeter et lui présentait toutes les agonies auxquelles il avait assisté, tous les trépas qu'il avait ordonnés. Mort pendant les interrogatoires, mort dans les prisons, mort dans les flammes, mort sur la roue, mort aux cordes des gibets, se bousculait en lui et venait y mourir une deuxième fois. Les mains à la gorge, il s'efforçait d'écarter les fers rougis dont il avait vu brûler tant de poitrines nues. Ses jambes furent saisies de crampes. On l'entendit crier.
Les tenailles, ôtez-les par pitié !»
L'odeur du sang qu'il vomissait lui semblait l'odeur du sang de ses victimes. Il arrivait à Nogaret, pour sa dernière heure, de se sentir enfin à la place des autres. Et c'était cela son châtiment.
« Je n'ai rien fait en mon nom. Le roi seul, j'ai servi le roi !»
Ce légiste, devant le tribunal de l'agonie, tentait une ultime procédure. Les assistants, avec moins d'émotion que de curiosité et plus de dégoût que de compassion, regardaient s'enfoncer dans l'au-delà l'un des vrais maîtres du royaume. Vers le soir, la chambre se vida. Un barbier et un frère de Saint-Dominique restèrent seuls auprès de Nogaret. Les serviteurs se couchèrent à même le sol dans l'antichambre et la tête sous leur manteau. Bouville eut à les enjamber lorsqu'il vint dans la nuit de la part du roi. Il interrogea le barbier.
« Rien n'a pu agir, » dit celui-ci à voix basse. « Il vomit moins, mais ne cesse de délirer. Nous n'avons plus qu'à attendre que Dieu le prenne. »
Râlant faiblement, Nogaret était seul à voir les Templiers morts qui l'attendaient au fond des ténèbres. La croix cousue sur l'épaule, il se tenait le long d'une route nue, bordée de précipices, et qu'éclairait la lueur des bûchers.
« Aymon de Barbonne, Jean de Fume, Pierre Suffet, Brintignac, Ponsard de Gisy. »
Les morts se servaient de sa voix, qu'il ne reconnaissait plus, pour se faire reconnaître de lui.
« Oui, sire, je partirai demain. »
Bouville, vieux serviteur de la couronne, eut le cœur serré en percevant ce murmure qu'il se promit de rapporter au roi. Mais soudain Nogaret se dressa, le menton en avant, le cou tendu, et lui cria, effrayant,
« Fils de cathare !»
Bouville regarda le dominicain, et tous deux se signèrent.
« Fils de cathare !»
répéta Nogaret. Et il retomba sur ses oreillers. Dans l'immense, le tragique paysage de montagnes et de vallées qu'il portait en lui et qui le conduisait vers le jugement dernier, Nogaret était reparti pour sa grande expédition. Il chevauchait, un jour de septembre, sous l'éblouissant soleil d'Italie, à la tête de 600 cavaliers et d'un millier de fantassins, vers le rocher d'Anani. Sciarra Colonna, l'ennemi mortel du pape Boniface VIII, l'homme qui avait préféré ramer 3 ans au banc d'une galère barbaresque plutôt que risquer d'être rendu à la papauté, marchait à côté de lui. Et Thierry d'Hirson était de l'expédition. La petite cité d'Anani ouvrait d'elle-même ses portes. Les assaillants, passant par l'intérieur de la cathédrale, envahissaient le palais Caetani et les appartements pontificaux. Là, le vieux pape de 88 ans, tiare en tête, croix en main, seul dans une immense salle désertée, voyait entrer cette horde en armure. Sommé d'abdiquer, il répondait
« Voilà mon cou, voilà ma tête. Je mourrai, mais je mourrai, pape. »
Sciarra Colonna le giflait de son gantelet de fer, et Boniface lançait à Nogaret
« Fils de cathare, fils de cathare.
J'ai empêché qu'on ne le tuât. »
Gémit Nogaret. Il plaidait encore, mais bientôt il se mit à sangloter, comme avait sangloté Boniface, jeté à bas de son trône. Il était de nouveau à la place de l'autre. La raison du vieux pape n'avait pas résisté à l'attentat et à l'outrage. Tandis qu'on le ramenait à Rome, Boniface continuait de pleurer comme un enfant. Puis il était tombé dans une démence furieuse, insultant quiconque l'approchait et se traînant à 4 pattes dans la chambre où on le gardait. Un mois plus tard, il mourait en repoussant, dans une crise de rage, les derniers sacrements. Penché sur Nogaret et multipliant les signes de croix, le frère dominicain ne comprenait pas pourquoi l'ancien excommunié s'obstinait à refuser une extrême onction qu'il avait reçue quelques heures plus tôt. Bouville partit. Le barbier, se sachant inutile jusqu'au moment où il aurait à procéder à la toilette funéraire, s'était endormi sur son siège et dodelinait la tête. Le dominicain, de temps à autre, abandonnait son chapelet pour moucher la chandelle. Vers 4 heures du matin, les lèvres de Nogaret articulèrent faiblement.
« Pape Clément, chevalier Guillaume,
Roi Philippe. »
Ses grands doigts bruns et plats grattaient le drap.
« Je brûle !» dit-il encore.
Puis les fenêtres devinrent grises de la timide lueur de l'aube, et une cloche tinta, grêle, de l'autre côté de la Seine. Les serviteurs remuèrent dans le vestibule. L'un d'eux entra, traînant les pieds, et vint ouvrir une croisée. Paris sentait le printemps et les feuilles. La ville s'éveillait dans une rumeur confuse. Nogaret était mort, et un filet de sang séchait sous ses narines. Le frère de Saint-Dominique dit « Dieu l'a pris ».